I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pino, Grégoire Di Fior et prise de son assurée ce soir par Emmanuel Mordinckan qui connaît le norvégien, le suédois. Non, le suédois par cœur. Réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon. À notre sommaire, Éléphant de Martin Sutter chez Christian Bourgois, le dossier M de Grégoire Bouillet chez Flammarion et Sucre Noir de Miguel Bonnefoy chez Rivage. Présent également à mes côtés ce soir, Boris Pino qui surveille déjà le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Days and Dogs de Camille Henrot, visible jusqu'au 7 janvier au Palais de Tokyo à Paris. Sur le carnet de santé de la dispute, un malade ce soir, Laurent Nunez, qui ne peut être des nôtres, dans l'attente de la réception de son certificat médical. C'est Jean-Christophe Brianchon qui nous a rejoint pour et qui a préparé un petit salon dans lequel nous entrerons en fin d'émission. Pour rappel, le petit salon est le lieu où, au cours de la dispute, nous discutons d'un sujet que nous tentons d'analyser ou de décrypter ce soir. Comment la littérature nourrit les autres champs artistiques, rien que ça. On souhaitera un prompt rétablissement à Laurent Nunez et on va tout de suite ouvrir cette dispute avec Martin Sutter, écrivain suisse à bientôt 70 ans, à la tête d'une imposante bibliographie que l'édition Bourgois ont presque intégralement traduite, en concernant en tout cas la partie romanesque, traduction assurée depuis près de 20 ans par Olivier Manoni, qui signe à nouveau la traduction de ce nouveau roman, Éléphant.
An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I'll know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah. And the message was spread to zebra, mongoose and the dirt. Dirty hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippo plankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said, who me? You know I wouldn't hurt not one of you. I much prefer something to chew and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant.
Voilà, on pouvait bien passer en entier ce morceau de Syd Barrett, Éléphant effervescent. Pourquoi ? Lecture, première partie, 12 juin 2016. Ça ne pouvait être un syndrome de manque, il avait bu suffisamment. Schor, comment vous dites, Elisabeth Philippe ? Schor.
Je dirais Schor, c'est d'allemand.
Bon, Schor tenta de focaliser son regard sur la chose qui se trouvait tout au fond du creux, laissé par l'affouillement sous le chemin sur berge, là où le plafond de la grotte effleurait le sol sablonneux. Un jouet pour enfants, un petit éléphant, rose comme un cochonnet en massepain, mais en plus intense, et lumineux comme un vert luisant rose. Parfois, de temps à autre, quelqu'un découvrait la grotte de Schor. Il lui arrivait d'y trouver des nécessaires à injection, des préservatifs ou des emballages de junk food. Mais il n'avait jusqu'ici encore jamais décelé de traces relevant ou révélant, plus exactement, la visite d'enfants. Il ferma les yeux et tenta de trouver un semblant de sommeil. Schor avait une cuite tournante. C'est ainsi qu'il appelait les états d'ivresse au cours desquels tout se mettait à tourner dès qu'il était allongé dans son sac de couchage. Pendant toutes ces années, il n'avait jamais réussi à déterminer à quel moment les cuites devenaient des cuites tournantes. Il lui arrivait d'être certain que cela tenait à la quantité, puis il tendait de nouveau à supposer que la cause était dans le mélange. Mais il y avait aussi des cas comme celui-ci où, pour autant qu'il pouvait s'en souvenir, il n'avait bu ni plus, ni différemment de la veille, et tout se mettait quand même à tourner. Peut-être le climat jouait-il un rôle. Sur le trajet du retour, le fun avait poussé les gros nuages au-dessus de la rivière. Parfois, elle s'était ouverte en dévoilant l'espace de l'instant, une lune pleine et blanche. La pleine lune et le fun, c'était peut-être ça l'explication des cuites tournantes, au moins de quelques-unes d'entre elles. Il n'avait jamais déterminé non plus ce qui aidait le mieux à s'en débarrasser, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Il les ouvrit. Le jouet en forme d'éléphant était toujours là, mais il lui sembla qu'il se tenait un peu plus à droite. Il referma les yeux. Pendant un instant, l'éléphanto resta en rotation sous ses paupières et il laissa une traînée rose. Il rouvrit aussitôt les yeux. À l'autre bout, l'éléphant battait des oreilles et soulevait sa trompe en dessinant un S. Shore s'allongea sur l'autre flanc et tenta de stopper la rotation. Et ce faisant, il s'endormit. Alors, toutes mes excuses à Martine Sutter et Olivier Manoni pour une lecture absolument pitoyable du début de ce roman publié aux éditions Christian Bourgois. Avec tout de suite une question essentielle, Boris Pinault, posée sur Twitter.
Oui, Sylvie Collin vous demande, Philippe, vous allez peut-être pouvoir nous dire d'où ça sort, si vous avez trouvé un petit prénom à la petite éléphante rose du livre.
Philippe le Sage. Philippe est-il le Sage. Appelé ça commence par comme Sylvie ça. Collin.
Je pense que Sylvie, ça serait pas mal, non c'est un prénom qui peut être un prénom suisse aussi. Donc voilà,
bon,
je décide que c'est Sylvie.
C'est Sylvie, très bien. Alors, racontez-nous un peu plus sur cet éléphant.
Alors, c'était bien d'entendre Syd Barrett, parce que moi, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit que peut-être Martine Sutter avait trop fumé avant d'écrire ce livre. Et je me suis dit vraiment, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Parce que je suis, oh là là, comme c'est parti. Et puis, je me suis rappelé que c'était Martine Sutter et que généralement, les livres de Martine Sutter nous amenaient toujours quelque part et de façon drôlatique ou de façon grave. Mais en tout cas, que ça valait sans doute le coup de continuer. Et j'ai été très content de continuer parce que au bout du compte, on se retrouve, comme d'habitude, dans une fable un peu... abracadabrantesque, qui est un peu une fable écolo et sociale. En fait, ça croise la vie donc d'un généticien véreux qui décide de faire des éléphants roses pour essayer de les commercialiser. Il réussit pas tout à fait son coup. Et cet éléphant va se retrouver après bien des aventures donc dans la grotte du SDF. Donc, la vie du SDF qu'on va suivre aussi de l'autre côté. Donc, deux destins complètement différents. Au milieu, il y a un cirque parce qu'il faut bien trouver l'éléphant quelque part. Un dresseur d'éléphants qui est un peu mystique et birman, une vétérinaire à Corte et qui est aussi un peu à la fibre écolo. Et cette histoire, en fait, derrière la fable, derrière le conte, c'est quand même aussi une histoire de génétique, une histoire, je disais écolo, mais une histoire de misère sociale et économique, une histoire d'amour. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que dans cette façon d'écrire de façon presque comme un roman populaire, avec un feuilleton, avec des chapitres très courts, il arrive à nous faire un mélange des genres, que ça soit un peu le conte, la chronique hyperaliste, le roman populaire, et il arrive à nous emmener vers où il veut, c'est-à-dire à chaque fois une critique de la société. Et je trouve que sur la vie des SDF, il écrit des choses qui me paraissent très justes et très fortes, et aussi sur la folie de la génétique, d'un monde transformé. Donc voilà, c'est un livre qui m'a réjoui. Et qui se lit très facilement.
Alors, folie de la société de consommation, si vous avez dit, et des éléphants roses, des petits éléphants roses, hein, tout petits, parce qu'il faut que ce soit qu'on puisse les offrir comme jouets à Noël, les petits éléphants roses vivants. Vous aimeriez bien en avoir un ou préférez rose fluorescent?
Non, ne me prenez pas par les sentiments tout de suite dès le début de l'émission, mais je dois avouer que le petit éléphant rose m'a assez enchantée.
On a envie de la voir. Hein.
Mais oui, chacune de ces apparitions provoquait chez moi des petits cris de joie.
Vous avez enregistré ces petits cris de joie?
Ça reste confidentiel. Toujours est-il que... je trouve que c'est une excellente trouvaille, ce petit éléphant rose. Une excellente trouvaille de créature chimérique à la fois extrêmement attendrissante, puisqu'il le décrit comme... c'est un petit Ganesh, vous savez, Ganesh, le dieu éléphant, Ganesh miniature avec la peau d'un cochonnet en massepain. Donc déjà, c'est très très alléchant. Et c'est une créature chimérique, je trouve, qui est à la fois donc très attendrissante, absurde, et qui traduit bien, je trouve, les incarnations souvent dérisoires de notre désir de transcendance. Voilà, parce que c'est une chimère après laquelle vont courir tous ces personnages, ce généticien, enfin ce chercheur fou, les gens du cirque, le SDF et la vétérinaire. Donc voilà, cette créature absurde et en même temps tout à fait... tout à fait adorable, devient le centre d'attention et devient presque un personnage sacré. Donc ça, je trouvais que c'était une très bonne trouvaille, d'autant que voilà, cet éléphant apparaît dans une grotte. Donc là, ça peut évidemment évoquer l'apparition de la Vierge à Bernadette. En tout cas, je trouve que le petit éléphant rose est bien plus charmant que le veau d'or. Donc là-dessus, j'étais déjà très séduite par cette trouvaille. Ensuite, effectivement, comme le disait très très justement Philippe, il y a tout un propos écologique. On a un peu toutes les nuances, toutes les variétés de la souffrance animale, puisque c'est à la fois les animaux de laboratoire, enfin le cas des animaux de laboratoire qui est traité dans ce livre, mais également les animaux que l'on chasse, puisque la femme vétérinaire, on apprend que son père était chasseur, il y a des trophées de chasse, mais aussi évidemment la condition des animaux dans les cirques. Donc il y a toutes ces facettes de la souffrance animale qui sont passées en revue par Martin Sutter de façon plutôt intelligente, très documentée, ce que vous disiez Philippe aussi, notamment sur l'état des recherches en génétique, parce que quand même ces histoires d'animaux luminescents, les glowing animals, c'est une réalité. Je crois que ce sont des Chinois qui s'y étaient essayés. D'ailleurs, on a affaire dans ce livre à un très grand laboratoire génétique chinois. On pointe avec d'ailleurs un des employés de cette firme qui va venir prêter main forte aux chercheurs fous. Donc, il y a quelque chose d'assez réjouissant. Vous disiez qu'il y avait un mélange des genres. Il y a aussi un peu de polar dans ce livre. Ensuite, moi, si je devais émettre une réserve, je trouve que il y a un côté un peu caricatural qui est certes propre à la fable, mais qui peut un peu amoindrir le propos. C'est vrai que les méchants sont très très méchants, les gentils sont très très gentils. La vétérinaire, elle a le cœur sur la main, elle est végétarienne. Voilà. Et puis, par moments, je trouve aussi que la construction pêche un peu par ces constants allers-retours entre le présent et le passé. Enfin, les deux mondes qui se croisent sans cesse. Je trouve que ça ménage un suspense qui est un peu un faux suspense parce que l'intrigue est un peu cousue de fil blanc. Et par moments, justement, Sutter s'en sort par des retournements de situations qui sont un peu invraisemblables. En tout cas, l'éléphant rose, c'est pas la chose la moins invraisemblable du livre à mes yeux. Mais ces réserves faites, je trouve que c'est quand même une lecture assez réjouissante.
Ah oui, et puis une lecture vraiment très, très facile parce que c'est quand même un volume relativement épais avec pas mal d'intrigues secondaires. Moi, j'ai une passion pour les éléphants. Chacun ses passions, les amettes. J'ai plusieurs ganaches chez moi, si vous voulez tout savoir.
Moi aussi.
Et donc, il faut quand même dire aussi que c'est quand même un livre très documenté, mais sans que ce soit justement pour recopier des fiches Wikipédia. Mais c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses sur les éléphants, sur leur façon de vivre, sur leur anatomie, sur leur appareil génital. J'ai dit anatomie, on peut préciser en effet certains points de cette anatomie. Donc ça, c'est toujours je trouve ça très réussi. Et j'ai aussi pensé, alors peut-être que vous avez trouvé que c'est un peu tiré par les cheveux, mais au dernier roman de Don DeLillo, Zero K, qui m'avait semblé quelque peu faible, qui part sur des terrains alors qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui quand même joue avec les fantasmes de l'époque en matière de transformation de l'humain, pour aller vite. Il me semble que Martin Sutter s'en tire beaucoup mieux que Don DeLillo, pour qui j'ai la plus grande estime par ailleurs. Philippe Chevillier.
En plus, il y a une ironie, il y a une forme d'humour, un petit décalage toujours dans tout ce qu'il écrit, même quand il y a des passages tendres. C'est ce qui fait la force aussi du livre. Et puis, on est encore une fois, c'est ce que disait Elisabeth, très proche de la réalité. On peut les faire, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin dans la postface. On peut, en théorie, on pourrait faire cette petite éléphante. J'aimerais bien en avoir une.
Il paraît qu'on peut, depuis 10 ans, on peut faire ça.
Et alors, il y a un truc qui
est... On croit sur parole ou c'est encore de la fable?
On a vu des photos, la presse avait publié des photos d'animaux luminescents.
Non, mais un petit éléphant.
Non, c'est des petits lapins. Les petits éléphants, je n'ai jamais vu, mais petits lapins.
C'est l'éléphant qui m'intéresse. Je crois
des petits lapins bleus qui brillaient dans la nuit.
Oui, ça m'intéresse moins, c'est pour ça que... Pardon, Philippe, je vous ai interrompu.
Il y a un élément, on parlait du côté documenté, et ce que je trouve assez fort, c'est... Quand on est dans le monde des SDF, on est vraiment dedans. Alors le monde des généticiens est sans doute un peu plus caricatural parce qu'il veut vraiment les attaquer. Mais quand on est dans le monde des SDF, on a vraiment cette... quand on entre dans leur cantine, on a cette sensibilité. Et sur les animaux, il y a quelque chose que je trouve très beau. Il y a un passage où on voit la petite éléphante justement qui n'est pas contente parce que tout d'un coup, on comprend que c'est parce que quelque part, elle réalise qu'elle n'est pas à la taille qu'il faudrait et qu'on ne la respecte pas en tant que... que l'animal sauvage qu'elle doit être. Et je trouve que ça va justement très loin dans le dans l'analyse des éléphants, des animaux, et dans cette de cette empathie pour les animaux qui ne s'en sert pas comme d'un gadget, c'est qui défend vraiment l'animal. Et la fin, qui est encore plus abracadabrantesque, parler du côté un peu convenu du livre, mais finalement la fin quand même nous emmène encore ailleurs, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un conte qui est quand même bien cousu, parfois de fil blanc mais aussi de fil d'or et de fil rose, et qui est très efficace à la fin.
D'autant qu'on n'est pas sûr pour la fin, puisqu'elle se passe le 16 décembre 2018, donc peut-être que Martine Sutter est prophète, allez savoir. Ouais, ça retombe quand même sur ses grosses pattes.
Ça retombe sur ses grosses pattes, et c'est plutôt la délicatesse d'une porcelaine, parce que je trouve qu'il y a, je suis entièrement d'accord avec Philippe, il donne corps vraiment et chair à ce petit éléphant, encore une fois totalement surréaliste, et je trouve qu'il aborde cette condition animale, en tout cas ce petit animal, avec une très très grande délicatesse.
Oui, il a cette capacité, Martine Sutter, c'était le cas dans d'autres livres que j'ai pu lire de lui, de rendre les choses réalistes. C'est-à-dire qu'effectivement, on admet complètement l'existence de ce petit éléphant rose fluorescent, et aussi beaucoup de choses, même si elles sont parfois un peu spectaculaires dans les retournements de situation. Il a cette capacité à écrire vrai, des choses les plus folles. Philippe Chevillier, vous avez tout lu de Martine Sutter?
Non.
Vous êtes un fan, non?
Je ne l'ai pas tout lu, mais je suis un fan. Moi, j'avais beaucoup aimé Le Cuisinier, notamment, qui est aussi une histoire folle. Et justement, ce qui est toujours très, très fort chez lui, c'est qu'on a l'impression qu'il a cette... Alors que d'aucuns cherchent vraiment à travailler sur la forme, lui cherche toujours à travailler d'abord sur l'intrigue, sur les éléments d'une histoire un peu folle qu'il va coudre. Mais pour arriver à dire quelque chose et toujours avoir une critique, mais toujours avec beaucoup d'ironie quand il s'attaque aux marchands d'armes, quand il s'attaque. Et aussi, la série de romans policiers que j'aime beaucoup, les Holmen et le diamant rose, Holmen et les libellules, l'histoire de cet aristocrate collectionneur d'art, un peu Arsène Lupin, qui vit dans la serre de son immeuble, parce que l'immeuble est occupé désormais par une banque, avec son majordome latino qui est sans papier. Il a une fantaisie, il arrive à recréer donc avec Holmen des romans à énigmes, et dans ses romans je trouve qu'il oscille parfois entre comme ça cette gravité, cette légèreté, on est toujours sur le fil, et il dit des choses en même temps avec des histoires qui sont toujours formidables et bien construites, quoi. Donc pourquoi bouder son plaisir?
Jean-Christophe Brianchon, vous qui nous écoutez pour une fois sans intervenir et pour cause, puisque vous êtes là pour animer un petit salon en fin d'émission. Une question à nous entendre concernant Martine Sutter ou ce roman éléphant?
Pas réellement, puisque si je dois me faire juge de ce que vous avez dit, vous m'avez donné envie de le lire, alors que en début d'année j'avais hésité et n'étais pas allé au bout de cette hésitation. Donc
bon, notre éditeur test est donc convaincu de lire Éléphant de Martine Sutter, paru chez Christian Bourgois dans une traduction d'Olivier Manoni. À suivre dans la dispute, Grégoire Bouillet et Miguel Bonnefoy.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la littérature, il y aurait peut-être aussi un petit salon à consacrer à l'épaisseur des volumes de la rentrée française. Cette année, me semble-t-il, les romans monstres sont quand même foison. Alors celui de Grégoire Bouillet, le deuxième. Est-ce qu'il y a marqué roman quelque part? Non, il n'y a pas marqué
surtout
roman.
Pas.
Oh là là, ça y est, Philippe s'énerve déjà comme l'Académie française.
Pas,
Oh là là, elle est furieuse. Bon, le deuxième, particulièrement monstrueux, puisque les 850 pages dont nous allons parler, publiées chez Flammarion, ne sont que le livre 1, ce texte, le livre 2, de la même taille, paraît-il, paraîtra lui en janvier.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine elle aime tant ça. Madeleine c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine que j'attends là.
soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les farites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, qui n'arrive pas.
Bon, nous on va bien arriver quand même à parler de ce premier livre. Certainement pas un roman, hein, de Grégoire Bouillet, le deuxième chez Flammarion. Alors je ne sais pas si vos camarades de jeu ce soir vous en veulent d'avoir inscrit ce livre à notre programme. Ça a rendu Laurent Nunez malade, à l'évidence, parce qu'il n'est pas là. Philippe Chevillet sera celui qui aura lu avec moi pour partir. Je ne vais pas mentir. Le deuxième de Grégoire Bouillet. Comment est-ce que vous pourriez présenter le livre pour en donner idée à nos éditrices et auditeurs?
Déjà, dire avec une grandeur papale, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais pas vous dire...
Vous le dire en latin éventuellement?
Oui, alors ça plus tard. Non, mais il faut vraiment pas se laisser impressionner par le volume. C'est un livre qui, en tout cas à mon sens, se lit très facilement. Voilà, j'avais essayé de rassurer Philippe d'ailleurs, j'espère que...
On verra. On verra.
On n'aura pas l'impression que je lui ai menti. Alors, résumer ce livre, c'est assez compliqué, mais disons... pour faire court, que M, c'est, alors on ne sait pas si c'est un M pour Madeleine, en tout cas c'est l'initiale du prénom de la jeune femme dont tombe amoureux le narrateur, qui est Grégoire Bouillet, une jeune femme qui est stagiaire, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est déjà fiancée et qui vient d'un milieu social bien plus aisé que celui de Grégoire Bouillet. Donc leur amour est un amour impossible et d'ailleurs va tourner au fiasco. Et à partir de ce moment-là et de cet échec amoureux, Grégoire Bouillet s'auto-condamne à une malédiction, à un malheur qui durera 10 ans. Et durant cette période de purgatoire qu'il s'est auto-imposé, il rencontre une autre femme, une femme qui est déjà mariée, avec laquelle il a une aventure. Et lorsque le mari de cette femme l'apprend, il se suicide avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre et en prenant soin au préalable de maudire Grégoire Bouillet et son épouse. Alors, évidemment, ce résumé pourrait faire extrêmement peur et donc faire mentir la phrase par laquelle j'ai voulu commencer. Mais cette histoire ne se donne absolument pas de façon linéaire et telle que je viens de la raconter, puisque ce qui fait tout l'intérêt et à mon sens, la grandeur de ce livre et sa monstruosité assez géniale, ce sont les digressions. Pour arriver à ça, Grégoire Bouillet se lance dans une écriture qui ressemble à une improvisation de jazz, c'est-à-dire qu'il part en toute liberté et rebondit d'une histoire à une autre par des associations d'idées à la façon du marabout bout de ficelle. Donc déjà, le livre commence par une histoire de Picasso et d'un de ses amis qui se sont partagés la même femme et l'ami s'est suicidé. Donc on lit ces 10 premières pages, on pense qu'on a affaire à une exofiction, le genre roi quand même en cette rentrée, donc ce genre qui consiste à s'inspirer de personnages réels. Et en fait, pour Grégoire Bouillet, ce petit prologue est une façon de dynamité de dire non, voilà, on vous sert ça en ce moment, moi je vais pas faire ça. Et ensuite on rentre dans l'esprit assez malade de Bouillet qui, pour s'autoriser à raconter cette histoire, commence par tenter de reproduire le suicide de l'homme trompé. Donc là, il y a une forme de malaise.
De le reproduire physiquement, il essaye lui-même.
De le reproduire physiquement. Donc ça, c'est encore une fois un long préambule. Et après, de ça, on va passer à des réflexions sur les chips que l'on mange dans les bars, au désastre qu'ont représenté les années 80, au personnage de Zorro, à l'influence de Dallas dans nos vies et comment le personnage de JR a complètement changé la perception des méchants, des pages entières sur le rugby, sur la cuisson des Respunchu aussi, ça ce sont des pages assez hilarantes puisque Grégoire Bouillet aussi raconte son ancienne histoire d'amour avec une femme se contente d'appeler S, la lettre S, donc S pour Sophie Calme, à la limite peu importe qu'on sache qu'il s'agit de Sophie Calme ou non. En tout cas, ce sont des pages assez savoureuses sur les snobismes du milieu artistique.
Savoureuse et dur.
Mais très drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Donc, on passe sans arrêt d'une dimension à une autre, de considérations politiques à des considérations économiques, à des considérations artistiques, et tout ça nourri aussi par d'autres, tout un jeu d'intertextualité avec d'autres livres.
Alors, je me permets d'une citation pour dire moins bien ce que vous avez dit très bien, mais comme ça c'est écrit par Grégoire Bouillet, c'est peut-être encore plus simple. Combien de fois me suis-je dit, ce n'est pas le sujet qui fait un livre, c'est le livre qui fait le sujet. C'est le livre qui doit faire le sujet. Que les choses soient claires, je devais parler du suicide de Julien. D'une façon ou d'une autre, je le devais. Le mot « événement » ne convient pas, mais il s'agissait d'un événement dont je ne pouvais m'accommoder un jour de la semaine après l'autre depuis qu'il avait fait effraction dans mon existence un dimanche aux alentours de midi. J'aurais pu m'en fiche et passer à autre chose, mais non. C'était culpabilité. Mais pas seulement. La vérité, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement du suicide de Julien. Il ne s'agissait même pas de Julien. Les choses ne sont jamais exactement ce qu'elles sont, elles ont toujours des arrière-plans et, dans le cas de Julien, sans doute, se suicida-t-il pour des raisons qui lui appartenaient, mais également pour d'autres qu'il ne soupçonna à aucun moment de son vivant. Je ne plaisante pas, je possède de première main des informations sur le suicide de Julien que je ne peux pas garder pour moi. Il doit savoir, même s'il est mort. Ce détail ne doit pas m'arrêter. Et quoi ? Un homme est mort et son fantôme erre peut-être tout proche, suppliant qu'on le libère. Ce n'est pas rien la mort d'un homme. Dans quelle langue faut-il le dire ? Dans quelle langue raconter toute l'histoire ? Voilà, on n'est qu'à la page 43, mais j'ai trouvé que ce moment-là était aussi une autre façon de résumer le projet du dossier M. Alors, Philippe Chevillier, fin du suspense. En voulez-vous ou pas à Elisabeth Philippe ?
J'en ai voulu au début. Avant qu'on ait cette petite explication qui m'a empêché d'être malade et qui m'a permis
de ne pas avoir peur.
De pas avoir peur et d'aborder ce livre. Elisabeth m'avait même dit qu'on pouvait par moment faire une lecture rapide parce qu'il y a des énumérations.
Ce que j'ai fait.
Sur le rythme. Bon, on est un peu obligé parfois. Mais alors, moi, je n'aime pas beaucoup l'autofiction. Et pourtant, ce livre m'a vraiment emballé. Je m'étais donc juré de ne pas tout lire et j'avais du mal à pas tout lire. Donc à chaque fois, je me disais, non, là, il faut que j'arrête les énumérations parce que je n'arriverai jamais à la fin. Et ce qui est extraordinaire dans cette forme d'autofiction, c'est que finalement, c'est qu'on a l'impression que... on disait que ce n'était pas un roman, mais que finalement, la vie est un roman et que la littérature peut tout transformer. Elle peut transformer nos vies banales ou elle peut permettre d'extraire de nos vies banales l'extraordinaire. Et ce qui est frappant dans la façon dont on ressent le livre, c'est que l'intrigue, qui est une histoire... une vie, la vie d'un homme, avec ses rebondissements, elle est quand même formidable, cette intrigue. La façon dont c'est raconté, avec pas du tout linéaire, mais avec une forme de suspense, sans arrêt, il nous dit non, mais je vais pas encore vous dire, je vais vous le dire, mais attendez, on est quand même, on est tenu en haleine, un peu comme un thriller. Au fond, c'est un grand récit d'amour. On a droit à tous les émois amoureux sous toutes ses formes. Donc, on a la première liaison avec Madame S. Pas très tendre avec Madame S.
Ah non, c'est pas toujours très drôle.
Et comment rompre avec quelqu'un qu'on a aimé, qui ne s'attend pas à ce qu'on rompe avec elle. Le coup de foudre...
Lâcheté, là, par contre, il n'est pas tendre avec lui non plus.
Non, parce qu'il y a de l'autodérision.
Il essaye de la coincer en le faisant... Enfin, c'est très connu comme truc de se faire détester par l'autre et méprisé par l'autre pour être quitté plutôt que d'avoir le courage de quitter cette femme.
Mais comme il nous dit absolument tout, on a effectivement tous ces artifices pour arriver donc à la rupture. Le coup de foudre, c'est vrai qu'un coup de foudre, c'est un peu banal en littérature. Et là, on l'a tellement, il exploite tellement ce coup de foudre. On le voit sous tous ses aspects que ça devient très fort. La fin, le côté impossible, donc la fin d'un amour qui va jusqu'à des tentations, la jalousie. Et si je me débarrassais du fiancé. Ce qui m'a frappé, c'est que ce qui nous gêne parfois dans l'autofiction, c'est qu'on a l'impression d'entrer dans une vie dont on dit finalement c'est ça nous intéresse pas. C'est il ou elle regarde son nombril. Alors que là, c'est un peu un nombril à rayonnement, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est un roman de débordement. À chaque fois qu'il parle de quelque chose et quand il énumère, tout d'un coup, comme il y a beaucoup d'énumérations, on se dit, tiens, par exemple, à un moment donné, il nous parle de son amour pour Véronique Sanson, son amour de jeunesse. Et moi, je me dis, oh là, qu'est-ce que j'aimais Véronique Sanson? Et je repense au désir de Véronique Sanson et je me dis, bah, il l'aime encore un peu, bah, moi aussi. Et du coup, on se retrouve complice, alors qu'en fait, on n'a pas du tout la même histoire, bien sûr. Mais, et finalement, cet homme qui est, il y a quand même une grande solitude dans le livre, et cette solitude devient une solitude partagée et solidaire. Donc voilà pourquoi, finalement, ce livre m'a emballé après m'avoir fait peur.
Bon. Je suis ravie d'entendre votre enthousiasme au sujet de ce livre, parce que mais il est difficile, je trouve, et je trouve que vous en avez extrêmement bien parlé, parce que je trouve qu'il est difficile de rendre compte exactement de la particularité de ce livre, qui n'est donc pas un roman. En tout cas, Grégoire Bouillet, que j'ai pu rencontrer pour évoquer le dossier M, lui, il ne parle même pas d'autofiction. Il dit qu'il il fallait un genre en soi, il fallait créer un genre pour parler de cette histoire. Et pour lui, le genre, c'est le dossier. Et c'est presque, oui, un dossier d'instruction. Enfin, il mène l'instruction, sa propre... comment dire, son propre procès. Enfin, il est dans tous les rôles, quoi. Le juge, l'avocat, la victime, le coupable. Enfin, voilà, il endosse tous ses rôles. Et je trouve que c'est vraiment une lecture extraordinaire. Et on est emporté par ce flot langagier. Lui-même se surnomme Monsieur Gicle. Et voilà, on est totalement... Vous parliez de nombril rayonnant. C'est tout à fait ça.
Eh bien, toutes les parties aussi, beaucoup de références à Flaubert, ce qui est normal pour un écrivain, mais le Flaubert débordant aussi, pas seulement le Flaubert auteur, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses très riches. Mais pour continuer sur le dossier, j'imagine que, comme moi, vous êtes allé, parce qu'on n'avait pas assez lu de pages, regarder le dossier m.fr, oui. Puisqu'il y a un site en ligne dans lequel Grégoire Bouillet ajoute des documents.
Ouais, c'est le cyberbureau des greffes, je crois que c'est l'expression qu'il utilise dans le livre. Ouais. Bon, il se dit, ah là, j'ai plus assez de place pour parler de la Yougoslavie, ben je vais rajouter, ouais. Voilà, ça sera d'autres pièces à verser au dossier, des pages supplémentaires sur la Yougoslavie ou alors sur le rugby.
Il y a un épisode des Pieds sur Terre de France Culture qui est très bienvenu, ouais, aussi. Ouais, ouais, il y a une publicité hallucinante pour une banque qu'on ne citera pas parce qu'on ne va pas lui faire de la publicité.
Parce qu'elle est très souvent évoquée.
Enfin bon, il y a beaucoup de choses aussi à aller chercher si vous n'en avez pas assez avec ce livre 1. Alors maintenant, est-ce qu'on va prendre date pour le livre 2? Mais il faudra absolument que Laurent Nunez subisse des examens.
Ah oui, parce que dans le livre 2,
qu'il soit là, hein.
Dans le livre 2, normalement, on va apprendre comment le lien entre la rupture avec M et le suicide de Julien.
Ah.
Donc ces deux éléments, voilà, qui sont d'un bout à l'autre du livre, on va enfin comprendre comment ils sont liés dans le livre 2. Donc oui, il faudra le lire.
Bon, il faudra le lire, il faudra venir en parler avec Laurent Nunez, qu'on embrasse évidemment à la distance, comme ça on ne risque pas grand-chose. Le dossier M de Grégoire Bouillet chez Flammarion.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute consacrée ce soir à la littérature, c'est Sucre Noir de Miguel Bonnefoy, publié chez Rivage. C'est le troisième livre de l'auteur, le second écrit en français, et il débute, je vais en donner à entendre un petit peu, par un récit de naufrage. Sur un navire naufragé planté sur la cime des arbres au milieu d'une forêt. C'était un trois-mâts de 18 canons à voile carrée dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. À tribord, des fruits pendaient entre les cordages. À bâbord, d'épaisses broussailles recouvraient la coque. Tout était si sec, si bien qu'il ne restait de la mer qu'un peu de sel entre les planches. Il n'y avait pas de vagues, pas de marée. D'aussi loin que s'étendait le regard, on ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait, chargée d'un parfum d'amande sèche, et l'on sentait craquer tout le corps du navire, depuis la hune jusqu'à la cale, comme un vieux trésor qu'on enterre. Cela faisait plusieurs jours que l'équipage survivait difficilement à bord. On y trouvait des officiers sans bannière, des bannières borgnes, des esclaves noirs qui, les dents cassées par la crosse d'un fusil, avaient été enchaînés sur la côte du Sénégal et achetés sur un marché londonien. Pendant des heures, ils se tenaient au bastingage, les coudes appuyés sur une mousse humide et scrutaient l'horizon en cherchant l'océan. Je vais m'arrêter là, mais ce début est une fausse piste, pourrait-on dire. En tout cas, c'était le choix de Laurent Nunez. Alors quel accueil en son absence, allez-vous réserver à ce livre? Tiens, Philippe Chevillier va commencer pour nous parler de Sucre Noir de Miguel Bonnefoy.
Ah! Alors, Sucre Noir, moi j'aime beaucoup les histoires de pirates, les romans de pirates. J'aime beaucoup ce premier chapitre avec le bateau dans les arbres. Et puis, à un moment donné, il se passe plein d'histoires sur ce bateau. Ils ont faim, ça pourrit. Et puis, le plouf, le trésor tombe.
Le capitaine Morgan.
Et oui, c'est le capitaine Henri Morgan.
Donc, dégoulinant.
300 ans plus tard, on retrouve donc une famille Otero, c'est son nom. Et donc, le livre, ça va se présenter comme une mini-saga familiale, comme un conte, hein, c'est un conte pour adultes, avec son côté réalisme magique. C'est joliment écrit. Il y a des ressorts agréables. Moi, j'ai trouvé ça assez charmant à lire. Après, c'est vrai que le problème, c'est que le conte en lui-même est un peu tourne un petit peu à vide parce qu'on a de jolies images, on a de belles métaphores. Il y a des choses intéressantes dans les personnages. On en parlera. Toute cette réflexion sur la chasse au trésor, qui finalement n'est pas la même pour tous, donc on en reparlera aussi si vous voulez, mais les différents personnages. Alors, par exemple, la fille donc qui est un peu l'héroïne, elle est en quête d'amour, elle va finalement tomber un peu par force amoureuse d'un chercheur d'or qui lui va finalement obliquer, il va abandonner un peu le trésor et ça va être le sucre noir.
Au sucre noir, le
rhum qui, enfin son travail et puis cette femme aussi, l'amour physique et puis il va y avoir un vrai chercheur d'or qui est arrivé. Puis une fille adoptée qui elle va, c'est le pouvoir qui la fascine et on va retrouver le trésor à la fin, mais il faut quand même pas tout dire.
Eva Fuego, alors pas comme la voiture, hein, mais.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de feu dans le roman, ça fait partie des images, c'est aussi des métaphores du livre. Donc c'est comme un joli poème. Conte poème, mais qui à la fin on se demande comme dirait Fabienne Pascaud, so what je la cite.
Oui, c'est très bien de la citer dans le texte. Alors Elisabeth Philippe fait des grands yeux, des mous, des mimiques.
Oui, parce que ça fait pas 900 pages, mais moi ça m'a paru très très long. Non, je vais un peu nuancer mon propos. Indéniablement, Miguel Bonnefoy sait écrire, voire surécrire, moi je trouve un peu. C'est très chatoyant, très foisonnant, très luxuriant. Il y a effectivement de très belles scènes, la scène d'ouverture.
Je serais bien resté avec les corsaires, enfin avec
les
pirates.
Oui, cette image de bateau suspendu dans les arbres au-dessus de la mangrove, c'est vraiment très beau. Après, moi, je dois avouer qu'on croule un peu sous les icaquiers, les goyaviers, les corossols, les calebassiers. Enfin, rien ne manque. Mais une fois qu'on a désherbé un peu tout ça, je suis d'accord avec Philippe.
Les animaux, d'accord, mais le botanique, non. Alors.
Mais si, justement. Mais là, il y en a tellement. Enfin, c'est le diorama de la forêt d'Amérique du Sud. Quoi. C'était très, très, encore une fois, très luxuriant, très enluminé. Mais si on se débarrasse de ces arbres, de ces images, etc., la morale de ce petit conte, mais il y a pas grand chose, parce que c'est quoi ? Ah oui, le vrai trésor, c'est pas forcément la cassette d'or, ça peut être le cœur de la jolie jeune femme ou le plus vieil arbre de la forêt. On est vraiment dans quelque chose d'assez d'assez limité, en tout cas à mes yeux. Et vous parliez de saga, moi je trouve que avec l'apparition d'Eva Fuego, là, c'est là, je crois qu'on m'a perdu. Là, je trouve qu'on est presque dans la telenovela. Moi, ça m'a rappelé.
Oui.
Moi, j'ai ce souvenir de Terre Indigo, une très belle saga sur TF1.
Vous avez le droit de le dire. Non, mais vous allez nous en dire plus.
Non,
ça ressemblait.
Mais non, mais c'est Eva Fuego, déjà, ce nom. Enfin,
ouais,
et surtout, je trouve qu'en 2017, un jeune écrivain, j'attends un peu autre chose. Je trouve ça me dit rien sur le monde dans lequel on vit. C'est une écriture qui est certes très maîtrisée, mais qui n'apporte rien de nouveau. Donc, ça me laisse un peu sur ma faim.
Ouais, c'est une belle cylindrée pour transporter une histoire assez ténue. Alors, je sais pas s'il y a une poussée de fièvre chez Laurent Nunez à nous écouter, mais moi, je partage assez plutôt l'avis d'Elisabeth Philippe sur. Moi, je suis plutôt friand de l'écriture de Miguel Bonnefoy. Encore une fois, j'aurais préféré qu'il reste du côté des pirates, mais parce que saga, parce qu'effectivement, on passe de génération en génération, et qu'est-ce qui se transmet. Enfin bon, il y a toute cette dimension-là de l'héritage, de la recherche, de la quête. Mais rien ne vaut l'amour, Elisabeth. Mais on le savait avant d'ouvrir les pages de ce livre, peut-être, Philippe Chevillier.
Oui, on le savait. Alors. Après, ce que je disais, je trouve que les personnages, notamment celui du chercheur d'or, est assez intéressant du début parce qu'on
le premier,
oui, parce que tout d'un coup sa conversion à autre chose que l'or.
Au Rome.
C'est pour ça que ça m'a plu. Non, non, mais...
On est d'accord.
Mais dans une conversion à travers une scène d'amour qui est quand même d'un kitsch...
Oui, oui.
Bah, rien de moins, qu'il y a les bougies, enfin, mais, on se croirait tout, dans les feux de l'amour.
Mais là, c'est ça, tout est assez kitsch.
Pardon tellement... pour mes références.
Oui, oui, mais Terre Indigo, les feux de l'amour, comme vous voulez.
Mais il y a une...
Mais ça peut se passer comme
c'est
ça
un peu aussi. C'est un peu une image naïve aussi, c'est un peu un conte naïf avec ce côté luxuriant dont on parlait. Et dans ce genre-là, c'est plutôt bien agencé. On a l'impression d'un petit tableau naïf, assez joli, d'un petit bijou comme ça. Mais qui évidemment nous laisse après un peu sur notre faim et c'est étonnant parce que moi je marche beaucoup au conte quelquefois je me pose même pas la question de savoir ce que ça raconte parce que finalement on est imprégné et il y a quelque chose qui reste là. Je trouve que on reste dans la beauté du geste, dans la poésie, et qu'on n'est pas marqué profondément par ce livre. C'est trop anecdotique ou trop, je ne sais pas, c'est vrai que je reste sur ma faim.
Pas mieux, Elisabeth Philippe.
Pas mieux, je sauverais peut-être le personnage de Serena, qui est celle justement qui convertit le premier chercheur d'or à l'amour. Je trouve que c'est un beau personnage de femme. Ouais. Non, vous savez, c'est vous qui...
Elle est quand même aussi dessinée avec des très très gros traits.
Oui.
Et bon, oui. On la voit venir d'assez loin quand même, cette Serena, rien que le prénom aussi est quand même bien choisi. Bon, non, je vais pas...
Non, essayer de sauver quelque chose.
Pas tout à fait quand même, parce que il y a quand même dans les ressorts de même de l'action de Serena, il y a quand même des, quand on voit le personnage au début, quand elle écoute la radio et tout ça, il y a quand même des il
faudrait, ça le... c'est assez joli d'ailleurs, cette histoire avec la radio, les messages, c'est son seul lien avec la ville, et donc ça je trouve ça
sur l'histoire elle-même, elle est pas mal ficelée, c'est simplement ça tourne un peu à vide.
Bon, il y aura pas de droit de réponse pour Laurent Dunez, il a qu'à nous écrire sur Twitter, peut-être dans des vapeurs de fièvre, pour défendre Sucre Noir de Miguel Bonnefoy, publié chez Rivage. Et tout de suite, on va entrer dans le petit salon à la suite de Jean-Christophe Brianchon. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette introduction musicale, donc celle du Petit Salon, pas depuis la rentrée, en tout cas le Petit Salon, longtemps tenu par Lucille Comeau, qui nous est revenue, puis par Xavier Martinet. Donc c'est cet endroit où nous nous réunissons au cours de la dispute pour parler d'un sujet, pour tenter d'analyser un phénomène qui mérite notre attention. Ce soir, donc, c'est Jean-Christophe Brianchon qui nous reçoit dans le Petit Salon. Nous sommes tout ouïes, Jean-Christophe.
À défaut d'entendre Laurent Nunez, je voulais qu'on se pose aujourd'hui ensemble la question de la place que la littérature occupe dans le processus de création des artistes ces dernières années. Puisque de tout temps, les créateurs, que ce soit les auteurs, les metteurs en scène, les plasticiens ou les réalisateurs de cinéma, tous se sont inspirés de leurs confrères pour créer. Ainsi, en littérature, Proust s'inspirait de Flaubert, en peinture, Picasso était imprégné des tableaux du Gréco, et même plus récemment, cela continue, puisqu'on peut voir Vincent Macaigne ou François-Henri Désérable revendiquer leur amour respectif pour Tchekhov et Patrick Modiano. Ce qui est nouveau, ce n'est donc pas l'idée d'inspiration, bien entendu, non. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont la littérature en particulier devient ces dernières années prétexte de création dans nombre de champs artistiques. Au cinéma, c'est un phénomène déjà ancien, puisque le premier film italien, Les derniers jours de Pompéi, était adapté d'un livre éponyme. Cependant, la dynamique continue aujourd'hui, avec par exemple l'adaptation du livre d'Edouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, par Anne Fontaine, et en matière télévisée, la série à succès Game of Thrones, qui n'est rien d'autre que l'adaptation de la saga fantastique de George Martin. Au-delà du cinéma, cette tendance se vérifie aussi, mais avec une force toute particulière sur les scènes de théâtre. Ces dernières années, nous avons vu nombre de créations contemporaines arriver sur nos scènes qui n'étaient en fait que des adaptations de romans. C'est le cas de Julien Gosselin avec 2666 de Roberto Bolaño et Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, mais c'est aussi le cas de nombreux autres metteurs en scène comme Christophe Warlikowski avec Proust, Guy Cassirs avec Les bienveillantes de Jonathan Little et beaucoup d'autres encore, puisque même en danse le phénomène existe, avec pour ne citer que lui, le chorégraphe Jean-Claude Galota qui proposait en 2015 une adaptation dansée de L'étranger de Camus. Cette évolution, loin d'être blâmable en elle-même, pose question, et en particulier à deux égards. Tout d'abord, la multiplication de ces projets, qui ne sont pas des inspirations mais purement et simplement des adaptations, pose la question simple de la prise de risque et de la place de la création pure dans le processus de travail des artistes. Autrement dit, si on ne fait qu'adapter de l'existant, qu'en sera-t-il à moyen terme de la création originale ? Elle n'est en l'état actuel des choses pas en danger, bien entendu, mais il est intéressant de se poser la question et de savoir pourquoi il en est ainsi. Évidemment, l'art est aussi une économie et il ne serait peut-être pas fou de supposer que cette dynamique soit le fruit d'une certaine frilosité en matière de production, les producteurs pouvant préférer le confort de l'adaptation d'un texte déjà existant au risque d'une création ex nihilo. Enfin, et c'est le côté positif de la chose, cette dynamique confirme à la littérature sa place de discipline artistique populaire qui jouit d'un prestige peut-être supérieur à celui des autres. Comme si après toutes les tentatives, toutes les créations et toutes les audaces, elle s'imposait comme l'alpha et l'oméga de la création, comme le geste artistique ultime et le plus noble qu'aucun autre champ ne pourrait dépasser. Mais ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez.
Oui, mais j'imagine que vous commenterez aussi. Vous avez réussi à placer Vincent Macaigne, c'est bien.
Toujours, il faut toujours.
Votre chouchou, on en parle demain soir, si vous voulez bien, de son film Pour le réconfort, sorti hier. Adaptation pas si lointaine d'ailleurs que cela, la cerisée de Tchekhov. Alors pour le coup, pas un texte de littérature, mais un texte théâtral. Première réflexion, Elisabeth Philippe.
Oui, moi j'ai l'impression qu'en fait ça va dans les deux sens, qu'on est vraiment dans une espèce d'ouverture des disciplines où chacune va nourrir l'autre, parce que c'est tout à fait juste. Hein. C'est vrai que les exemples de Julien Gosselin sont très parlants. Vous parliez des séries, il y a également La Servante écarlate de Margaret Atwood qui est devenue une des séries les plus récompensées, je crois, au dernier Emmy Awards.
Handmaid's Tale.
Absolument, en VO. Mais la littérature, elle aussi, va puiser dans les autres disciplines artistiques. Là, on a vu en cette rentrée littéraire, l'art, la peinture est extrêmement présente dans les livres, avec cette mode dont on parlait tout à l'heure de l'exofiction. Les personnages de producteurs, de cinéastes qui ont vraiment existé, nourrissent aussi, viennent nourrir la littérature, puisque comme on le voyait avec l'histoire de Grégoire Bouillet, la vie, parfois, on le sait, le réel dépasse la fiction, et la vie est déjà en elle-même très très romanesque, et surtout quand on a des personnages comme, je ne me souviens plus, les producteurs qu'évoquait Christophe Donner par exemple, c'était...
Jean-Pierre Rassam,
voilà, absolument. Là, c'est des histoires presque servies sur un plateau pour les créateurs. Ensuite, ça pose la question que vous souleviez, Jean-Christophe, la question de la création originale. Mmh. Alors, je pense qu'effectivement, pour le cinéma notamment, bon, c'est pas un fait nouveau, hein, les cinéastes qui s'inspirent de la littérature, avec des résultats plus ou moins heureux. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce ne sont pas des petits livres qui ont été vendus sous le manteau qui vont être adaptés, ce sont des best-sellers. Donc là, effectivement, on peut imaginer que c'est dans une logique marketing, comptable et de profit, qu'on va adapter un best-seller. Là, par exemple, Polanski, c'est Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, qui a été vendu à je ne sais plus combien de milliers d'exemplaires.
Vous oubliez Au revoir là-haut, Albert
Dupontel. Au revoir là-haut, Pierre Prigoncourt, etc. Donc oui, là, je pense qu'on est effectivement dans une logique de prise de risque moindre.
Oui, mais il y a peut-être aussi, au-delà des lecteurs, la question d'une histoire correctement bâtie avec les canons de la littérature. C'est vrai qu'on peut parler des séries aussi, comme vous le faisiez. C'est vrai que si on enlevait les adaptations de Stephen King du catalogue de Netflix, ils auraient quand même beaucoup, beaucoup moins de séries. C'est vrai aussi pour Philippe K. Dick qu'on ne cesse d'adapter sur grand ou petit écran. Il y a quand même des gens dont on sait qu'ils savent écrire des histoires et déjà prendre cette ossature pour le cinéma, pour la série, peut être effectivement une assurance, au moins, enfin, c'est pas toujours le cas quand on voit les films ou les séries, mais au départ pourrait paraître une assurance d'une histoire bien racontée. Philippe Chevillé, quelques réflexions sur peut-être le domaine théâtral, par parenthèse, hein, Julien Gosselin l'a dit sur notre antenne, enfin elle a sous-entendu il y a quelques temps, c'est Donne de Lilo, sa prochaine proie. Il y en a même quatre. Mais quatre. On ne peut pas tout dire.
Allez. Ah oui, parce que c'est court, donc il est obligé de les prendre quatre.
Ça fera quand même quelques heures, rassurez-vous.
Alors justement, c'est intéressant, Julien Gosselin, parce que c'est là, on se trouve dans la situation où on prend une œuvre, on la juge... il doit la juger comme un chef-d'œuvre ou comme un livre très important, et de se dire qu'il va la... Au fond, il se dit qu'il doit la transformer, la représenter sur scène et en faire quelque chose qui soit un objet de théâtre et un objet artistique différent. Et c'est là qu'on voit... C'est intéressant, parce que si c'est juste prendre un roman parce qu'une belle histoire, bon, après tout, un bon scénariste peut aussi inventer de belles histoires. Mmh. Et je pense qu'il y a ce défi-là qui est jeté. Il y a des choses plus perverses. Par exemple, quand Hitchcock déclare qu'il déteste Daphné du Maurier, qu'il trouve qu'elle est complètement nulle, plus ou moins, enfin, auquel il niaise, il a quand même adapté trois romans de Daphné du Maurier, Rebecca, L'Auberge de la Jamaïque, et j'ai oublié le troisième, et Les Oiseaux, bien sûr.
Autre exemple dans cette idée-là, c'est Godard qui dit qu'on peut prendre un mauvais roman, Le Mépris de Moravia, pour en faire un très bon film.
Exactement.
Il prend exprès un roman qu'il considère plutôt très moyen.
Oui, enfin...
À l'inverse, je crois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui me frappe et ce qui m'amuse parfois, c'est quand j'ai lu quelques best-sellers, dont on parle parfois américains, c'est de voir qu'il y a toujours généralement un bandeau en disant les droits ont été achetés par Hollywood et puis on voit jamais qui fera adapter par Hollywood. Donc c'est de dire aux gens, si ça peut faire un film, c'est-à-dire que c'est un bon livre. Bon, alors ça c'est négatif. Mais après, le plus important, c'est, je crois, le fait peut-être que cette frontière entre les arts s'abatte. Qu'on puisse puiser un petit peu partout pour faire des œuvres un peu composites aussi, c'est-à-dire que dans le théâtre on puisse utiliser le roman mais d'autres choses, et puis d'arriver justement à éviter que ça soit simplement une facilité. Ce que disait Jean-Christophe, c'était, je trouve très bien à la fin là, de dire qu'au fond il y a quand même cette idée du livre qui serait presque l'art premier, si je puis dire, et c'est assez réconfortant de se dire que bon, la littérature occupe cette
l'art premier, pas au sens primitif, mais au sens du plus élaboré. Jean-Christophe Briançon, vous vouliez intervenir.
Ce qui me faisait réagir tout à l'heure à propos de Godard, c'est juste que bon, il a tendance à dire qu'il adapte des mauvais livres avec des acteurs qui sont des idiots, mais qu'il arrive quand même à faire des films géniaux. Donc bon, c'est aussi juste
ça, il l'avait dit à l'époque de la préparation du Mépris.
Oui, mais il dit aussi qu'on peut faire n'importe quoi à un acteur, et que de toute façon, l'important, ce n'est que le réalisateur. Mais bon, c'était quelque chose à part. Moi, ce qui m'interpelle avec cette dynamique, c'est peut-être, en effet, moi, d'une part, je suis quand même heureux de voir qu'effectivement, dans le fond, ce que ça veut dire pour moi, c'est que la littérature est de toute façon ce vers quoi on se tournera toujours in fine. Enfin, en tout cas, ça peut le sous-entendre, et moi, effectivement, ça me rassure, comme le disait Philippe. En revanche, ce qui me déçoit, c'est qu'en s'imprégnant de telle manière partout, ça peut aussi sous-entendre que dans chacun des champs respectifs dont on parle, donc que ce soit le cinéma, les séries, la musique, tout et n'importe quoi, ou la littérature peut être présente, ça pourrait supposer, quand il s'agit d'adaptation simple, pas d'inspiration, juste d'adaptation, ça pourrait supposer qu'on ne dispose plus ou qu'il n'existe plus des artistes qui pourraient créer, quoi. Et ça, moi, c'est quelque chose contre lequel je me bats terriblement, parce que il est facile aujourd'hui de dire qu'on n'a plus les artistes d'hier, et que mais si on va vers là, et si en plus c'est le fruit d'une dynamique économique, c'est-à-dire le fruit de producteurs qui, par frilosité, préfèrent adapter plutôt que faire confiance à de la création originale, là je trouve ça très malheureux, parce que finalement, du coup, ça devient la prophétie autoréalisatrice de l'absence d'artistes, alors que, bien évidemment, non, on a des artistes, des très grands artistes qui aujourd'hui sont capables de créer des œuvres originales.
Oui, alors c'est vrai, mais je pensais en vous écoutant que c'est assez triste pour le cinéma, d'une façon un peu générale, si on le regarde largement, parce qu'il y a une très grande part qui est d'après une histoire vraie, et l'autre part qui serait d'après une histoire vraie, le livre de Delphine de Vigan. Soit on adapte effectivement quelque chose qui a bien marché, sous une latitude ou une autre, ou alors c'est parce que... On parlait du prochain Clint Eastwood au bureau juste avant de monter dans ce studio. Ça va nous raconter l'histoire du Thalys et des trois Américains qui ont réussi. Voilà. Mais on est vraiment, le cinéma est quand même terriblement partagé aujourd'hui entre ces deux pôles, et pour un appauvrissement quand même de la production, avec peu de place faite aux auteurs originaux. La politique des auteurs a sacrément du plomb dans l'aile de ce côté-là. Elisabeth Philippe.
C'est peut-être pour cette raison que les cinéastes vont se réfugier justement, chercher refuge dans la littérature, cet espace de liberté. Je pense à Cronenberg qui a publié son premier roman. En tout cas, le premier roman a été traduit il y a deux, trois ans. Là, dans un tout autre genre, je sais qu'il y a Régis Varnier qui va publier son premier roman en janvier.
Jean-Jacques Benex l'avait fait aussi.
Oui, oui, oui. Donc c'est amusant. C'est vrai que vous parliez de la littérature comme art premier, en tout cas art original, vraiment au sens de, ou originel. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs d'autres champs artistiques se tourner, ou en tout cas aller vers la littérature, peut-être pour avoir accès à une plus grande liberté.
Et légitimité aussi, on n'est pas vraiment un artiste tant qu'on n'a pas écrit son premier roman.
Mais c'est rassurant aussi que la littérature conserve cette dimension de prestige.
Oui. Philippe Chevillier.
Non, au fond, ce qui est parfois un peu inquiétant et ambigu, c'est quand on entend, par exemple, un film, il est fidèle au livre. Parce que finalement, c'est justement les œuvres autres qui sont inspirées de la littérature, c'est bien quand elles sont fidèles à l'esprit peut-être, mais en tout cas quand elles s'évadent, quand elles s'échappent, là on tient quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion aussi à tenir sur le théâtre, c'est-à-dire qu'on a quand même des écrivains contemporains, des auteurs contemporains de théâtre, mais on a aussi une tendance au théâtre de plateau, à l'écriture collective. C'est pas étonnant aussi qu'on a moins le texte théâtral est moins sacré, et du coup on se saisit d'un peu tout, mais peut-être qu'on peut regretter qu'il y ait plus cette, ce qui est moins de textes contemporains forts que par le passé, mais ça on le saura peut-être dans quelques années, il faut qu'on regarde dans le rétroviseur.
On regardera ça. Ben voilà, on se ferme ce premier petit salon de la saison finalement, hein, tenu par Jean-Christophe Brianchon. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir et de sa question en tout cas. Il va nous livrer la réponse tout de suite ensuite. Grégoire Difior, et la question était...
Quel célèbre roman pastoral français du XVIIe siècle se déroule dans le Forez ?
Et la réponse ?
La réponse était L'Astrée d'Honoré d'Urfé.
Et on fait gagner ce soir, Astrée c'est la dompe, hein, on pense au film d'Éric Rohmer, des invitations pour l'exposition Days Are Dog de Camille Henrot, une exposition à voir jusqu'au 7 janvier au Palais de Tokyo à Paris. Quelle est la question ?
Quel est le nom de la vidéo de l'artiste utilisant une vidéo pornographique ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et bien sûr vous abonner au podcast de La Dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC. Alors demain, justement, à 19h, une dispute consacrée au cinéma. Alors en compagnie de Florence Colombani, Charles Garçon et Antoine Guillaume. Et demain, pour la première fois, nous vous donnons rendez-vous au bar Le Bel Air, à la Maison de la Radio, pour assister à notre émission. Rendez-vous d'ailleurs dès 18h15, à vrai dire, avec le Grain à Moudre, représenté par Hervé Gardette, puis la dispute de 19h à 20h. On vous donnera ainsi rendez-vous tous les vendredis. Pour l'instant, Elisabeth Philippe, ce n'est que le vendredi. Je vous ai proposé de venir parler de séries. À notre affiche demain, si ça vous intéresse, The Square de Ruben Östlund, pour Le Réconfort de Vincent Macaigne et Corps et Âme de Ildikó Eniendi.